Interview. 1.
Okay, the bird.
Bonsoir.
L'interview du jour.
Ici Erdivoire et c'est l'heure de l'interview, comme vous venez de l'entendre, avec au studio Jean-Pierre Surle. Bonjour.
Bonjour.
Et Monsieur Kassim Bouhou, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous parler d'un film qui sort ce soir au cinéma Le Pistel. Il s'intitule « Le gâteau du président ». Et ainsi, donc, nous allons présenter rapidement ce film. Tout d'abord, peut-être Jean-Pierre Surle, pourquoi ce choix de programmation ? D'ailleurs, ce film a été très remarqué au dernier Festival de Cannes.
Voilà, alors moi, je l'ai vu effectivement en mai dernier au Festival de Cannes et ça a été un véritable coup de cœur. Et j'aime à dire, vous voyez le titre, Le gâteau du président, j'aime à dire que ce film est délicieux. Voilà, c'est vraiment, vraiment, j'ai adoré, à tel point que ce film a reçu la Caméra d'Or à Cannes, c'est-à-dire que ça récompense le meilleur premier film, parce qu'il s'agit d'un premier film. Voilà, c'est dans l'Irak de Saddam Hussein, et l'instituteur demande à la classe, dont fait partie Lamia, qui a 9 ans, eh bien, pour l'anniversaire du président, chacun doit faire un gâteau. Sauf que faire un gâteau quand on manque de matières premières, c'est un peu compliqué. Et donc le film voit Lamia déambuler dans les rues, frappant un peu à toutes les portes pour trouver ou des œufs, de la farine, etc. Voilà. En tout cas, c'est un petit bijou de délicatesse, d'humour. Et pour ça, pour présenter ce film ce soir à 20h, Chloé et moi avons fait appel à notre ami Kassim Bouhou, qui est chercheur associé à l'IRIS, qui est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci, Kassim.
Merci aussi, oui. Donc, avant de commencer, peut-être de débattre sur ce film, nous allons écouter sa bande-annonce.
طلع كتبكم صار الوقت المميز اللي راح يكون يجيب لنا الكيكة مال الاحتفالية راح يكون لميحة أحمد نايف
نعم أستاذ بيبت اليوم غضبانة عني
الكيكة حبيبتي تركيها
قال الكيكة حتى لو صغيرة
يبيش أسويها والله حبيبتي ضاحت مني
أسبح حساب صنع فارغ؟
جيب هذا وقرأ
كيس بيرة ثمان هنو ثمر كيلو طحين بابر زغل نص كيلو شكر معيشتنا قمشة كبايد وتنفش كيكتنا
سعيد سعيد كان حاج الوادم صحيح انت فقر وحتى ابوك سحلوني السجن على الأقل عايش
تروينك جميعا
ما تدري تروح روح انا ابقى هنا انا ما اروح
ليش
لازم اسوي الكيكه
اخ لو كنت انا الرئيس
Voilà, une bande-annonce donc du film Le gâteau du président, dont le titre littéral signifie plutôt Le royaume du roseau. Et justement, Hakim, on en parlait avant l'enregistrement. Que signifie ce titre ?
En fait, le royaume du roseau fait référence au marais de basse Mésopotamie dans lequel se déroule le film, en tant qui est le lieu où vit la petite fille, Lamia, avec sa grand-mère, une maison sur pilotis. Et après la première guerre du Golfe, donc en 1991, les roseaux ont permis à un certain nombre de militaires qui ont fait défection de l'armée de Saddam de se cacher. Et Saddam, pour pouvoir empêcher ces personnes de se cacher, a organisé une grande opération de drainage et d'assèchement des marais, qui a causé un certain nombre de problèmes économiques sur lesquels on reviendra, puisque c'est un des sujets du film, et qui a empêché en fait ces personnes de se cacher.
Ce film raconte donc la désignation d'une élève d'une école primaire qui s'appelle Lamia, je crois, et donc qui est désignée pour confectionner un gâteau pour le président Saddam Hussein. Comme vous le disiez, Jean-Pierre, nous sommes dans un pays exsangue suite à une guerre, avec un blocus économique également. Donc c'est une course pour trouver les ingrédients pour produire ce gâteau. Donc ça permet de se promener dans cette société en reconstruction ou plutôt en stagnance, je dirais. Est-ce que justement ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Kassim,
oui.
Et par votre expérience, est-ce qu'il reflète exactement la société de ce moment ?
Oui, il reflète une situation particulière qui est celle qui m'intéresse beaucoup dans mes travaux à l'IRIS, qui est celle de ce qu'on appelle la stabilisation ou le post-conflit. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre militaire et après la guerre militaire, Saddam a été défait et lui ont été imposées, vous l'avez dit, un certain nombre de sanctions. Je crois que c'est le plus sévère de toute l'histoire des Nations Unies, avec un embargo total sur les armes et sur le pétrole aussi. Qui est la rente principale du pays. Donc on se retrouve effectivement dans un pays exsangue et on se retrouve dans une société qui doit faire des pieds et des mains pour pouvoir trouver les matières premières de première nécessité pour se nourrir, pour se soigner. Et pour revenir au roseau, et au royaume du roseau et au marais, par exemple, les valves et les systèmes de pompage étaient également frappés par les sanctions de l'ONU parce qu'elles pouvaient être détournées à des fins militaires. Donc on se retrouve effectivement dans cette situation très, très difficile où on voit cette petite fille qui est tirée au sort et c'est une absolue malédiction, en fait, qui lui tombe dessus parce que tout le monde a compris, et c'est autour de cela que va tourner le film, tout le monde a compris que elle va avoir beaucoup de difficultés à trouver de la farine, des œufs, du lait, du beurre, et c'est les pérégrinations et une aventure formidable à laquelle on assiste pendant toute la durée du film.
L'eau, déjà, à cette époque, il y a eu beaucoup de difficultés, puisque je crois savoir que c'était le plus ancien système au monde de distribution de l'eau, et qui a été malmené pendant cette guerre par les Américains. Donc, est-ce que ça aussi s'est abordé dans ce film ?
Oui, c'est abordé. On le voit avec, comme je vous le disais, ces marais de basse Mésopotamie. Alors, il y a quelque chose aussi de très communautaire. On en reparlera parce que c'est une certaine partie de la société irakienne qui vit dans cette région. Et je vous disais, donc, les personnes issues de cette communauté se cachaient dans ces roseaux et dans ces eaux pour ne pas devoir rejoindre leur régiment ou leurs unités de l'armée de Saddam. Et puis, Saddam Hussein a asséché et il a également détourné l'eau vers un grand système qui s'appelle le système de la loyauté, qui privilégiait en fait les loyaux de Saddam. Et quand on dit loyaux de Saddam, après la première guerre du Golfe, ça a aussi une orientation très confessionnelle. C'est-à-dire qu'il s'agissait aussi de privilégier les personnes de sa tribu et de sa communauté, les sunnites, au détriment des chiites, communauté à laquelle appartient Lamia et qui est majoritaire dans cette région de basse Mésopotamie.
De par votre fonction, Jean-Pierre, est-ce que si vous avez un propos à amener sur le film ?
Non, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir la présence de Kassim pour ses subtilités. Parce que souvent, nous, occidentaux, on peut passer à côté. Et c'est comme quand on passe un film indien, d'Inde, on passe à côté des problèmes de caste. Si on connaît parfaitement la culture, on maîtrise. Et des fois, les subtilités nous échappent. Donc Kassim, ce soir, va vraiment nous éclairer sur... qui est cette Lamia, où est-ce qu'elle vit, que fait sa famille et les différentes ethnies,
confessions.
Donc c'est très intéressant d'avoir un regard éclairé. C'est une chance pour nous.
D'ailleurs, dans le synopsis, il n'est pas précisé la ville où se déroule l'action, mais on sait que c'est au bord de l'Euphrate. Et il y a des scènes liées donc à ce transport pour aller à l'école, notamment. Et par rapport à ce pays qu'est l'Irak, qui est né sous la protection anglaise, en étant prélevé de l'Empire ottoman dans les années 20. Ensuite, il a fallu peut-être aussi rassembler tout un tas de peuples qui vivent sur ces terres. Et ça n'a pas été une mince affaire. Et on peut l'avoir dans ce film célèbre, Lawrence d'Arabie.
Tout à fait, tout à fait. En fait, Saddam Hussein a été un des grands acteurs du panarabisme au Moyen-Orient et avec lui un certain nombre d'autres pays qui étaient aussi engagés dans cette idée que le monde arabe devait être un par plusieurs. Et ça commençait par son propre pays, évidemment. Et pour cela, il y avait une base politique qui était le parti Baas, qui était un parti socialiste, plutôt proche des idées soviétiques sur un certain nombre de sujets. Et ce parti Baas a permis effectivement de rassembler cette société multiconfessionnelle en Irak. On a effectivement des sunnites confession à laquelle appartient Saddam Hussein, voilà les chiites, la confession de l'Amia. Vous avez les Kurdes aussi, les Kurdes irakiens qui occupent une grande partie du pays. Vous avez des chrétiens d'Orient aussi qui sont très nombreux et un certain nombre aussi de petites communauté qui compose cette société irakienne et à travers laquelle, effectivement, seule une idée, un projet, un contrat social pouvait répondre pour l'unifier et la fédérer. Donc Saddam Hussein a quelque part réussi ça pendant un certain nombre d'années. Ça, on ne peut pas lui retirer. Alors évidemment, il y a eu la guerre avec l'Iran qui a été un élément de fédérateur très important. Et puis il y a cette idée assez folle d'aller envahir le Koweït pour son pétrole. Sous couvert américain, disait-il, mais finalement les Américains n'ont jamais validé officiellement, voire ils se sont même retournés contre lui, puisque ça a été une grande coalition occidentale pour l'en empêcher et faire de l'Irak un élément extrêmement important dans le Golfe au détriment des alliés traditionnels que sont notamment les pays du Golfe. Donc il y a eu besoin de fédérer, c'est une société multiconfessionnelle, et tout ce qui court tout au long du film, c'est quelque part le déclenchement de l'effondrement de la société irakienne. Malheureusement, l'histoire de l'Amia y raconte aussi ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans cette confrontation pendant toutes les années 90, jusqu'à la chute de Saddam Hussein, et évidemment qui a été nourrie de l'extérieur. Il s'agissait de rendre Saddam Hussein fragile de l'extérieur en travaillant au corps cette société multiconfessionnelle et notamment les confessions opposantes de Saddam.
L'Irak, c'est un territoire très terrestre, avec très peu de littoral. Hein. Je crois qu'il y a quelques dizaines de kilomètres sur le golfe Persique, il me semble. Et donc, c'est peut-être aussi son malheur de ce pays pour son développement économique, sachant que ce littoral est très proche de l'Iran. Donc, il y avait cette source de conflit également.
Oui, il y a effectivement ce souci de pouvoir s'extraire de son environnement terrestre et du désert pour pouvoir exporter notamment son pétrole. Mais il ne faut pas oublier quand même que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que la base Mésopotamie, c'était le grenier de l'Irak. C'est-à-dire que l'Irak était un pays autosuffisant en céréales, en fruits, en légumes, en très nombreuses cultures maraîchères étaient exploitées dans cette région grâce à ces marais hein, qui étaient très fertiles. Donc on est effectivement dans une bascule aussi parce qu'il y a eu la guerre et parce qu'il y a eu des décisions très très dures de la part de Saddam Hussein qui a encore plus appauvri son pays et qui a fragilisé son pays et qui a commencé à construire une sorte de répartition de la richesse et une répartition du peu qu'il y avait sous période de sanction au profit d'une confession ou d'une ethnie au détriment des autres. Et c'est un peu ça aussi le drame de l'Irak qui effectivement a aussi ses propres difficultés géographiques. Mais je pense que là, ce qui est raconté, c'est surtout le début d'un effondrement économique, social et politique de l'Irak.
Et d'ailleurs, dans ce film, vous parlez de ces peuples, de ces confessions, par rapport à ce terme de confession ou de religion. Est-ce que vous voulez mettre aussi un point précis sur ces deux termes ?
Bien sûr. En fait, là, on a deux confessions qui se regardent et qui s'opposent. Les chiites, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire du schisme en islam, mais vous avez, à la mort de Mahomet, deux grandes familles qui s'opposent sur l'héritage prophétique et du message prophétique, les sunnites d'un côté et les chiites de l'autre. Donc en Irak, ce qui est très étonnant, c'est que c'est une minorité sunnite qui gouverne le pays avec Saddam et une majorité chiite qui est un petit peu sous le joug de Saddam Hussein, qui en plus est perpétuellement considéré comme déloyal parce que proche de l'Iran, qui est l'ennemi juré de l'Irak dans la région. Donc on se retrouve effectivement dans une situation très très difficile. Et on le voit dans le film, il y a beaucoup de... je ne vais pas raconter, mais il y a des cérémonies funéraires donc, dans lesquelles on entend un certain nombre d'invocations. Il y a la prière de la jeune fille. Il y a aussi les policiers. La manière dont ils invoquent un certain nombre de choses en arabe montre qu'ils se différencient des chiites, qui sont d'ailleurs appelés les bouseux, je crois, parce qu'ils viennent en ville. Il y en a assez de ces bouseux qui viennent nous casser les pieds au commissariat. Donc il y a effectivement cette distinction qui fait qu'on est sur deux confessions. Alors les confessions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a le rapport aux icônes, le rapport à l'image, il y a l'intercession entre le croyant et Dieu. Les chiites ont quelqu'un qui intercède, ils ont une sorte d'imam qui est un quelqu'un qui va intercéder envers eux. Et puis ils ont cette histoire du 12e imam caché qui doit revenir et qui est annonciateur de la fin du monde, chose à laquelle ne croient absolument pas les sunnites par ailleurs. Et vous avez les Kurdes qui, eux, parlent une autre langue. Là, on est sur une autre ethnie qui sont sunnites, mais qui sont dans une opposition totalement culturelle avec le reste de l'Irak et avec une volonté de rejoindre leurs frères présents sur d'autres morceaux des voisins que sont la Syrie, l'Iran et bien sûr la Turquie.
Kassim, si je reviens sur l'anecdote du commissariat, donc sous Saddam Hussein, ça veut dire que les fonctionnaires, l'armée, les gens étaient forcément sunnites ?
Oui, oui. Sur des métiers comme cela, c'est forcément des sunnites et c'est absolument clair dans le film. Et les métiers d'autorité, les métiers où il y a du renseignement, où il y a la sécurité, étaient entre les mains de la confession sunnite. Et les plus hautes fonctions étaient aux mains de personnes qui s'appelaient les Tikriti, la ville natale de Saddam Hussein, qui était Tikrit, qui est dans le fameux triangle sunnite dont on parlait pendant la deuxième guerre d'Irak, Tikrit, Mossoul et Fallujah.
Hassan Hadi, le réalisateur de ce film, est irakien, je pense.
Oui.
Vous l'avez vous-même rencontré ?
Non.
Non. Mais est-ce qu'on peut peut-être savoir comment a-t-il pu concevoir et produire ce film ? Non, pas trop de ça.
Moi, je pense que c'est difficile de savoir et très honnêtement, j'ai pas étudié la question. Néanmoins, je trouve que son film est très intelligent parce que et je savais pas que c'était un premier film et son prix n'est pas galvaudé au Festival de Cannes parce qu'il aborde un nombre incroyable de sujets et comme l'a dit Jean-Pierre, c'est marqué par le saut de la sensibilité, par l'humour, par l'image. Les plans sont absolument merveilleux. Cette jeune fille sur la felouque qui va rejoindre son école, tout est absolument esthétiquement magnifique. Et je trouve que il a abordé des sujets très difficiles, d'un moment difficile de l'histoire de l'Irak, qui, comme je vous l'ai dit, pour moi est annonciateur et un peu l'antichambre de l'effondrement de cette société, de ce pays. Et il le fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sensibilité. C'est vraiment une œuvre merveilleuse, je trouve.
Et les gamins sont formidables.
Et les gamins sont
absolument formidables. La petite et le copain qui l'accompagne.
Oui. Ouais, ils sont... Enfin, on a une histoire même d'amour, quelque part, un peu, entre ces deux petits, ou de très grande amitié. Voilà, il y a des regards échangés entre ces deux qui ont à peine 10 ans. Vraiment. Et puis les personnages sont les vendeurs de, le vendeur d'œufs, le vendeur de farine. Et puis, il y a des lumières. Alors, si on veut rentrer dans le film, dans ce paysage un peu dur, des fois sombre et cruel, il y a quand même des lumières qui brillent. Et je pense à deux ou trois personnes, notamment, qui donnent vraiment envie de croire en l'humain, parce qu'il y a beaucoup de cruauté aussi, hein, il y a beaucoup de difficultés pour ces jeunes filles, mais on a juste envie de lui donner ce qu'elle cherche. Elle cherche 4 œufs, un peu de farine, du sucre, pour qu'elle aille faire son gâteau pour son président. Et personne... Enfin, c'est très dur. C'est très dur, mais il y a des lumières.
Ce film se déroule, comme on dit, au lendemain de cette première guerre du Golfe, en 91. Vous-même, Kassim Bouhou, vous vous êtes intéressé à ce pays, bien au-delà de cette date. Qu'en est-il aujourd'hui? On entend moins parler dans les médias de l'Irak. Est-ce qu'il y a une stabilisation effective à l'heure actuelle?
Il y a une stabilisation effective, mais en fait... Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu un renversement. Je vous parlais des confessions tout à l'heure. Vous avez un renversement total du rapport de force politique et confessionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les chiites qui sont au pouvoir. Et vous avez eu, pendant toute la période des années 90, comme je vous l'ai dit, un affaiblissement qui n'a laissé aucun répit à Saddam Hussein en soutenant, les Américains ont beaucoup soutenu les élites chiites en Irak et en dehors pour pouvoir préparer un changement de régime. Et puis le 11 septembre est intervenu. Après ce film-là, il y a un grand... Enfin, la période de ce film-là, il y a un grand programme qui s'appelait Pétrole contre nourriture, mis en place par les Nations Unies, qui consistait, pour pouvoir un petit peu alléger le fardeau des sanctions, donner à l'Irak davantage de produits alimentaires que ceux qu'elle pouvait importer. Donc il y a eu ce programme, et qui a été un scandale énorme, parce qu'il y a eu de la corruption. En France, on a eu un certain nombre d'entreprises qui se sont, notamment Total, hein, qui a été condamné, hein, je le cite parce que c'est vrai, et qui ont eu à rendre des comptes sur ce programme Pétrole contre nourriture. 11 septembre 2001, les Américains vont en Afghanistan, puis décident de renverser Saddam. Le renversement de Saddam, pour moi, a ouvert en grand le pays au djihadisme. C'est-à-dire que ce qui constituait ces policiers dont on parlait tout à l'heure, l'armée, tout ça a été dissous par les Américains. C'est une erreur monumentale. Et les personnes qui constituaient ces unités et ces forces sont devenues Daesh, en fait. C'est Daesh qui a supplanté l'armée irakienne de Saddam Hussein et qui a et eu des conséquences jusque dans nos rues, jusqu'à Paris, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que ce film-là, il raconte aussi, c'est le déclenchement de cet effondrement et comment on a livré l'Irak au terrorisme international. Donc il y a eu cette montée de Daesh en Irak et en Syrie. Et puis, effectivement, il y a eu la France, les États-Unis et d'autres pays ont soutenu les Irakiens pour pouvoir se débarrasser de Daesh. Aujourd'hui, le pays est plus stable. On a une répartition du pouvoir politique assez justement organisée en fonction du poids de la population. Donc, on a aujourd'hui un premier ministre chiite, on a un président qui a moins de pouvoir qu'un président français qui est sunnite, vous avez une chambre qui est présidée par les Kurdes. Donc on cessait à la démocratie en Irak, on cessait à une forme de stabilité, mais ce n'est pas tout à fait encore l'Irak des années 80, qui pour moi est l'Irak de 70 et 80, qui a connu une forme de prospérité. Mais nous ne sommes plus dans la période de l'AMIA, qui est une période de sanctions intégrales.
Ce film a été produit par internationalement avec le Qatar, les États-Unis et l'Irak. Est-ce que, à votre connaissance, Jean-Pierre, est-ce qu'il existe une filmographie du cinéma irakien qui aborde un peu leur quotidien ?
Non, il y a très très peu de films irakiens. Donc c'est une vraie chance de l'avoir. Un premier film primé, donc vraiment c'est une opportunité incroyable. Donc ne laissez pas passer cette chance de voir un film irakien. Ce soir, si vous pouvez vous libérer, c'est encore mieux parce qu'en bonus, on a la présence de Kassim Bou et ça n'est pas rien. Non mais je plaisante pas, c'est-à-dire que vraiment, vous l'entendez là, c'est-à-dire qu'il éclaire de ses lumières ce film parce qu'on peut passer à côté de quelques subtilités. Mais sinon, vous aurez trois autres séances supplémentaires pour voir ce petit bijou que je qualifie de délicieux.
De nos jours, tout a changé aussi. Il y a Trump au pouvoir aux États-Unis. Il y a cette tension grandissante avec l'Iran, le voisin de l'Irak. Est-ce qu'il y a une certaine crainte de cette stabilité ou de cette mise en danger de cette stabilité à l'heure actuelle ?
Oui, parce que ce qui est paradoxal, c'est que les Américains se sont beaucoup, beaucoup appuyés sur l'Iran et sur les chiites pour combattre Daesh. Il y a eu l'organisation de ce qu'on a appelé la mobilisation populaire, qui est une unité totalement confessionnelle et qui a fait partie des combats contre Daesh en Irak. Aujourd'hui, comme je vous le disais, les chiites sont majoritaires. Ils ont des imams et des relations spirituelles très très fortes avec l'Iran. Une guerre en Iran ne manquera pas de déstabiliser l'Irak. Ça, c'est une certitude. Je pense que tout ça est évidemment très contrôlé, très surveillé et qu'on doit s'organiser pour avoir les plus grandes loyautés en Irak. Je pense que oui, il y aura effectivement des conséquences gravissimes. Je ne sais pas s'il y aura une guerre contre l'Iran. Je ne sais pas si ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe est de la gesticulation militaire pour faire plier les Iraniens sur le nucléaire. Je ne le sais pas. Et évidemment, je ne souhaite pas que tout ça parte en vrille et se traduisent par une nouvelle guerre dans cette région qui n'en a vraiment pas besoin. Mais on peut nourrir quelques craintes très sérieuses de voir l'Irak à nouveau basculer dans la violence à cause de ce qui se passerait en Iran.
Je reviens un peu sur l'IRIS, donc cet institut des relations internationales et stratégiques. Vous pouvez peut-être nous parler de sa fonction, de ses missions, et notamment celle sur l'Irak.
Bien sûr. Bah, écoutez, l'IRIS, c'est l'Institut de relations internationales et stratégiques qui a été fondé par Pascal Boniface, qui est notre président et, comme je vous disais, notre fondateur. L'IRIS, c'est ce qu'on appelle un think tank en bon français. C'est un institut de recherche qui produit de la pensée sur les questions internationales. Et ça va de la situation au Moyen-Orient à l'impact du changement climatique sur les armées, en passant par la course aux minerais, la question du nucléaire. Donc on couvre aujourd'hui la géopolitique est une question très vaste qui revient au centre du jeu parce que tout redevient géopolitique justement à cause des gesticulations de Trump, des remises en cause de l'ordre mondial post-1945, des Nations Unies, du Conseil de sécurité, du droit international, ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, interroge beaucoup le droit international. Et donc l'IRIS s'emploie avec d'autres instituts qui font aussi un travail de recherche, s'emploie à éclairer et à créer de la pensée stratégique de manière étayée, documentée et de manière scientifique. Moi, j'appartiens, alors tout ça est organisé en observatoire, moi j'appartiens à l'Observatoire de la sécurité humaine. La sécurité humaine, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui a été échafaudé justement dans les années 90, qui consistait à dire que la sécurité ne peut pas être une question uniquement de police ou d'armée, mais qu'il existe d'autres formes de sécurité avant la guerre qui doivent être traitées et adressées, comme celle de se nourrir, de se soigner, de choisir ses dirigeants et finalement d'être libre. Parce que toutes ces questions-là, lorsqu'elles ne sont pas adressées crée des frustrations qui peuvent faire basculer dans la violence et les conflits, et donc la guerre. Donc cet observatoire-là, auquel j'appartiens, fait un travail de recherche, et nous produisons des papiers, des articles, nous intervenons, comme je vais le faire, j'aurai le plaisir de le faire ce soir au Pestel, sur nos sujets de prédilection.
La séance se termine. Hein. Il y aura donc ce discours, ce dialogue avec vous, Karim, et donc Chloé et Jean-Pierre à la sortie de ce film, avec le public qui, j'espère, entendra cette émission et qui permettra de se rendre à cette projection qui débutera à 20h. Hein. D'autres projections sont prévues ensuite pour vendredi 27 à 15h30, samedi 28 à 18h15, lundi 2 à 18h. Eh bien, je vous remercie beaucoup Jean-Pierre Siurle et Karim Bouhou d'être venus sur Air du Voix pour nous présenter ce film, donc Le Gâteau du Président. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et nous nous quittons sur cette air musicale de Muslim Goes. Bonne soirée.
Merci.
Merci.
Au revoir.